Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi, kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Well, that's all right, Mama. That's all right for you. That's all right, Mama. Just any way you do it, that's all right. That's all right. That's all right, Mama. Any way you do. Well, Mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that gal you fooling with, she ain't no good for you. But that's all right. That's all right.
Janvier 2015, le King Elvis Presley aurait eu 80 ans. Pour marquer cette date anniversaire, nous avons décidé cette semaine de nous plonger dans l'histoire du rock et d'essayer de démontrer que la communauté noire aux États-Unis eut un rôle essentiel dans la genèse d'un genre musical qui fera le tour du monde, le rock'n'roll. Pour décrypter l'interaction entre blancs et noirs au cœur des années 50, nous avons convié Florent Mazzolini, soyez le bienvenu.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un ouvrage de référence qui a été réactualisé ces derniers mois et enrichi de nouveau portrait. Il s'agit de l'Odyssée du Rock, paru chez Hors Collection Éditions. Nous n'allons pas, avec vous, évoquer toute l'aventure des musiciens rock. Il nous faudrait 17 émissions. Nous allons plutôt nous intéresser aux racines noires du rock, car sans les bluesmen afro-américains, Elvis Presley ne serait pas devenu le King. Selon vous, Elvis Presley a-t-il pillé le répertoire des pauvres musiciens noirs que la ségrégation raciale avait bâillonné, en quelque sorte?
Moi, je pense que c'est plus complexe que ça, si l'on prend en compte que le rock'n'roll est résulte vraiment de la collision frontale de la culture noire et de la culture blanche dans des villes du sud des États-Unis, en particulier à Memphis. Elvis, très jeune, à l'âge de 13-14 ans, se passionnait pour le gospel qui se glissait là dans les églises de East Memphis. Il allait voir tous les dimanches matins, comme on entre en religion en quelque sorte, ces grands chanteurs noirs, et il tremblait d'émotion par rapport à cela. Ensuite, il se baladait du côté de Beale Street, qui était la grande rue du blues noir aux États-Unis, et puis il entrait un peu dans les clubs, il voyait Furry Lewis, vous voyez Rufus Thomas, B.B. King, bien sûr, tous les grands noms de Memphis à la croisée de la fin des années 40 et 50. Et ce morceau, That's All Right Mama,
et que nous venons d'entendre,
tout à fait, est un succès relatif, en tous les cas, de Arthur Big Boy Crudup de 1946, donc 8 ans auparavant. Et Elvis se souvenait de cela. Et donc, au lieu de pillager et honter, moi, j'irais plutôt, c'est
un emprunt,
mais avec beaucoup de passion. Il ne faut pas oublier qu'Elvis était totalement passionné de culture noire. Je me souviens, à l'ouverture du musée Stax à Memphis en 2003, j'avais un dialogue assez passionnant avec Chuck D de Public Enemy, qui disait Elvis était un connard de sudiste raciste. Et je l'avais un peu interprété là-dessus. On s'était retrouvé parce que je faisais partie des membres fondateurs de la réouverture du musée Stax, etc. Lui était invité d'honneur, bien sûr. Il m'avait dit clairement que c'était juste de la provocation, cette histoire du connard sudiste, etc. Et que lui-même écoutait beaucoup Elvis Presley. Il y a un côté très noir dans chez Elvis Presley, une passion jamais démentie. Faut pas oublier que le meilleur ami d'Elvis Presley était James Brown. Et le film que regardait toujours Elvis, c'était le Tammy Show 64 avec James Brown. Sans doute l'une des performances scéniques les plus démentes de tous les temps. Mais je pense qu'au final, ça reflète tout simplement l'orientation, la passion d'un gamin des rues de Memphis qui a eu la chance d'être au bon endroit au bon moment et de faire en sorte que ces musiques noires puissent s'ouvrir et puissent être découvertes par le plus grand nombre grâce à lui.
Est-ce que Sam Phillips, le patron des studios Sun où Elvis Presley enregistrera ses premiers succès, n'a pas profité du contexte racial pour faire de l'argent? En d'autres mots, était-il un blanc opportuniste et peu regardant?
Sam Phillips était là encore au bon endroit au bon moment. Pour moi, c'est l'un des personnages clés de l'histoire de la musique populaire du XXe siècle. Il a travaillé avec B.B. King, il a travaillé avec Howlin' Wolf, qui fut sans doute sa plus grande découverte. Lui-même le dira, ma plus grande découverte, c'est pas Presley, c'est Howlin' Wolf. Non, Sam Phillips, de manière assez astucieuse, hein, a été au bon endroit au bon moment, et surtout a senti cette révolution venir, senti que, en fait, il avait une phrase qui résume tout cela à merveille. Il a dit, le jour où j'ai vu des moissonneuses batteuses grandes comme des maisons débouler dans les campagnes, j'ai compris qu'une révolution était en marche. Et donc, en l'occurrence, tous les bluesmen quittaient à la fois le blues acoustique et quittaient ces campagnes pour aller au contact des villes. Et dans les villes, on trouvait des producteurs, des radios, l'électricité et les instruments amplifiés. Et donc, c'est juste, voilà, Sam Phillips a profiter de l'engouement du public, et puis il a senti que faut pas oublier que le rock and roll, en fait, c'est l'histoire d'une génération, c'est la génération des adolescents d'après-guerre qui, pour la première fois de l'histoire, vont écouter quelque chose qui soit différent de ce que leurs parents écoutaient. Le format 45 tours arrive en 1949, c'est une révolution, ça coûte un dollar, c'est pas cher, et donc forcément il faut créer un genre musical pour pouvoir à la demande, et ça c'est le génie du business américain, le génie de Sam Phillips entre autres, d'arriver à fourguer ses disques à des adolescents, blancs ou noirs. Mais il faut pas oublier que à Memphis, il y avait ce fameux DJ qui s'appelle Rufus Thomas sur WIDA, qui était la grande radio noire de Memphis, et qui lui aussi passait Elvis à longueur de journée. Et il y avait ce grand DJ aussi qui est devenu un peu fou, un peu fantasque, qui s'appelait Dewey Phillips, qui la première fois lorsqu'il a entendu That's Alright Mama, passait le morceau 16 fois dans son émission, le standard a explosé. C'est un peu comme ça que la légende d'Elvis est née.
Quoi qu'il en soit, pour réhabiliter l'auteur du premier succès d'Elvis Presley, voici la version originale de That's Alright Mama par Arthur Big Boy Crudup. That's Alright Mama, la version originale du bluesman Arthur Big Boy Crudup, enregistrée le 6 septembre 1946, soit 8 ans, vous le disiez, avant qu'Elvis Presley ne s'en empare. À quand remonte réellement la naissance du rock, Florent Mazzolini?
Oh ben pour moi, ce serait en 1860, la Nouvelle-Orléans.
Carrément.
À La Havane, avec un compositeur de la Nouvelle-Orléans qui s'appelle Louis Moreau Gottschalk, dont peu de gens se souviennent. Pourtant, ce fut un élève de Berlioz, quelqu'un d'une vieille famille de la Nouvelle-Orléans, et qui, pour la première fois sur la scène du théâtre Otakon de La Havane en 1860, a lancé un opéra qui s'appelait La Nuit des Tropiques. Il y avait plusieurs centaines de musiciens symphoniques européens, une centaine de chanteurs et surtout 60 percussionnistes noirs africains venus de la région de l'Orienté, donc la partie de Cuba orientale, qui jouaient des percussions. Pour la première fois, de manière formelle, il y a eu cette reconnaissance, cette collision, on va dire, entre les rythmes africains et la culture classique européenne. Et somme toute, pour moi, c'est le début du rock'n'roll en 1860 à La Havane. Mais après, on pourrait remonter un siècle en arrière avec Handel également. Certains passages Handel, c'est du rock'n'roll avant l'heure. Et je me souviens avoir eu cette discussion avec Alec Chilton sur le toit d'un hôtel de Memphis il y a une quinzaine d'années, qui m'expliquait clairement que Handel était déjà du rock'n'roll. Donc voilà, Handel, Louis Moreau Gottschalk, et puis bien sûr tout ce qui s'est passé entre la Nouvelle-Orléans et Memphis, ouais. Ce qui a pu poser les bases du rock'n'roll. Mais en tous les cas, c'est une révolution à tous les sens du terme, une révolution sociétale, une révolution rythmique, une révolution esthétique. Et c'était au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis avaient biais du cinéma hollywoodien qui a été énorme pour diffuser le rock'n'roll partout dans le monde, d'abord dans les bases américaines, puis au sortir de la guerre, voilà, il y avait une seule puissance, c'était vraiment l'omnipuissance américaine.
Dans votre livre L'Odyssée du Rock, vous évoquez Rocket 88, qui serait le titre le plus proche de l'univers du rock, paru en 1951 et interprété par Jackie Brenston, composé par un certain Ike Turner, ouais. Qui deviendra le tristement célèbre époux de Tina Turner. Pourquoi dit-on que ce titre est une date clé dans l'histoire du rock? Les germes du rock n'avaient pas été plantés bien avant?
Si, mais on dit que c'est un enregistrement clé dans la mesure où on en a un côté un peu, je peux dire agressif, un peu sauvage, mais l'histoire de ce morceau est assez simple en fait. Eux étaient originaires de Clarksdale dans le Mississippi. Ils partaient donc enregistrer pour le fameux studio Sam Phillips qui venait d'ouvrir ses portes. Alors à l'époque, Sam Phillips n'avait peut-être pas lancé son label, mais il travaillait pour différents labels à Chicago, Los Angeles. C'était un peu une sorte de dénicheur de talents, de producteur local qui raffinait en quelque sorte les produits qu'il trouvait, donc en l'occurrence les chansons, les artistes qu'il trouvait dans le sud. Et donc en route pour aller à Memphis, il y a l'ampli du groupe qui est tombé sur le bas-côté, il y a eu un petit accident de voiture, ils l'ont réparé tant bien que mal, et au final l'enregistrement ça donnait un son saturé. Et c'était pas ce que l'on entendait habituellement, ça donnait un son différent, un son strident, quelque chose de plus sauvage, plus agressif. Et c'est en ce sens qu'on dit que c'est un morceau qui a changé la face du rock 3 ans avant Presley, mais je pense que je remonterais plutôt à la Nouvelle-Orléans 2 ou 3 ans auparavant, les premiers disques de Fats Domino, de Fatman, je crois en 49, ou même les premiers morceaux de Professeur Longuerre qui sont enregistrés à la même époque, et c'est tout aussi important, tout aussi foudroyant.
Qu'est-ce que le rock, finalement? C'est la question qu'on pourrait se poser. Est-ce que c'est une réappropriation par les Blancs d'une culture noire, ou un patrimoine dont seuls les Noirs sont les créateurs?
Là encore, c'est une question complexe, je pense qu'il y a des deux. Bien sûr qu'il y a une récupération, bien sûr qu'aujourd'hui on parle de rock, c'est quelque chose qui parle au plus grand nombre. C'est pas spécifiquement africain ou noir-américain, mais effectivement il y a de grosses bases qui proviennent de là, de ces le blues, le rhythm and blues, le gospel, les chants traditionnels africains qu'on entend encore dans certaines parties de la Louisiane ou bien sur les îles en Caroline du Sud par exemple, vont rentrer de plein fouet avec la musique country, donc la musique des blancs sudistes, des hillbillies, littéralement les pecnos qui habitent dans le Piémont appalachien, dans le Tennessee, Caroline du Nord, etc. Et je pense que c'est vraiment la conjonction des deux. Ouais. On a une tradition d'écriture qui est peut-être la tradition des ballades irlandaises, écossaises, voire des ballades françaises ou des danses espagnoles ou italiennes, avec cette culture rythmique issue d'Afrique et puis raffinée en quelque sorte dans la Caraïbe. Je parlais tout à l'heure de la Havane comme lieu de naissance du rock'n'roll, et pour moi ça ne paraît pas déplacé. En plus, il y avait des liens très forts qui unissaient la Havane et la Nouvelle-Orléans.
Je vous posais cette question, Florent Mazzolini, car nous avons retrouvé dans nos archives un enregistrement de 1944, soit 10 ans avant l'apparition d'Elvis Presley. Il s'agit du chanteur Big Joe Turner. Il interprète Rebecca. Et vous me direz si pour vous, nous sommes déjà entrés dans l'ère du rock'n'roll. Big Joe Turner, le 13 novembre 1944 à Chicago. S'agit-il de rock, Florent Mazzolini?
C'est du rock sans lettres, c'est ce que nous disions à l'instant. Il y a peut-être que ça ne déborde pas encore. Il n'y a pas le côté
sauvage
et âpre. Et c'est très bon, c'est du très bon boogie-woogie, hein, qui est un genre qui déjà remonte à une vingtaine ou une trentaine d'années, hein, qui venait de la Nouvelle-Orléans, plus exactement des camps forestiers de la Louisiane. Et après il y a eu les fameux trains boogie woogie où on avait un pianiste dans le train et le pianiste devait reproduire la marche du train en fait avec son instrument, et tout ça est arrivé à Chicago. Et c'est vrai que Chicago était cette ville. Le rock aurait pu naître effectivement en 44 à Chicago, en 54 à Memphis ou en 34 à la Nouvelle-Orléans. Voilà, c'est juste une question de point de vue, d'opinion, mais non, ce titre-là est intéressant. Pour moi c'est 1860. Le problème c'est qu'on n'a pas d'enregistrement de 1860.
Voilà, c'est ça le problème. Grâce à nos camarades du label Frémo et Associés qui ont édité plusieurs anthologies sur Elvis Presley et les racines noires du rock, on constate que le King s'est nourri de plusieurs influences, blues, gospel, country. Est-ce que cela explique son succès ou y a-t-il d'autres facteurs qui l'ont hissé au sommet de la gloire? Je pensais à sa gestuelle ou son côté subversif de l'époque. l'époque.
C'est vrai qu'il dansait comme un noir, et en fait son rêve c'était parader d'un air gourmand dans les boutiques de Bill Street, où on vendait des costumes de scène lamés jaune canari ou fuchsia ou bleu électrique, avec des souliers pour faire un clin d'œil au fameux soulier en daim bleu.
Bleu Sweetshoes.
Oui, de Carl Perkins. Ben voilà, il fallait avoir un aspect criard, il fallait avoir un look un peu de macro, entre guillemets, avoir un côté un peu street assez prononcé, et Elvis était très friand de cela. C'est vrai qu'il dansait bien, mais au-delà de ça, c'est tout simplement qu'il y avait un physique à la Marlon Brando, et il est arrivé au bon endroit au bon moment, 22 ans, 23 ans, une moue un peu ravageuse, une moue boudeuse. À la base, lui, c'était un livreur d'une usine de Memphis, hein, c'était pas un chanteur de rock'n'roll, donc il avait un côté assez loulou atypique, qui a séduit, qui a affolé, on va dire, la bonne Amérique. Faut pas oublier que les premiers plans d'Elvis en 56, le fameux Ed Sullivan Show, sont cadrés très serrés, et on voit pas les hanches d'Elvis. Et on le surnommait d'ailleurs Elvis the Pelvis, grâce à son mouvement de bassin, en quelque sorte. Mais au début, on le cadrait très serré, et on ne voyait que son torse, en quelque sorte.
On disait que c'était une danse de nègre,
oui,
à l'époque.
Ben, c'était considéré comme primitif, sauvage, et la bonne société blanche, en tous les cas, ne devait pas écouter ce type de musique. Et ce qui est assez étonnant, c'est la manière dont, oui, les gens se sont offusqués par rapport à Elvis Presley, parce que il était synonyme de démon et de tout un tas de choses maléfiques, et cette danse avait un côté sexuel qui gênait grandement l'Amérique puritaine et qui ne voulait pas voir ça. Mais vous savez très bien, quand on interdit quelque chose à un adolescent, la première chose qu'il va faire, c'est briser cet interdit, puis se ruer pour aller chercher le disque d'Elvis Presley ou le disque de Jerry Lee Lewis chez le premier disquaire venu.
C'est en 1956 qu'Elvis Presley devient réellement une icône américaine, avec des titres comme Don't Be Cruel, Love Me Tender, Hound Dog, Heartbreak Hotel. Pourquoi explose-t-il précisément en 1956 ?
Il explose en 56 car Sam Phillips vend son contrat à la marque RCA à cette époque-là. Sam Phillips n'avait pas les moyens financiers de faire exploser Elvis partout en Amérique et au-delà de ça dans le reste du monde. Donc il revend le contrat d'Elvis par l'entremise du manager un peu loufoque d'Elvis Presley, le fameux Colonel Parker. Il revend le contrat d'Elvis à RCA, et c'est cette maison de disques qui va vraiment faire décoller Elvis Presley, et donc il rentre littéralement dans les foyers américains. Et le fait qu'il soit aussi récupéré à partir de 56-57 au cinéma, enfin qu'il apparaisse dans des films, et aussi assez extraordinaire pour sa carrière, car le Hollywood possède une puissance de frappe assez extraordinaire, et donc Elvis peut à la fois vendre des disques, mais peut aussi être sur les écrans, même si les films n'ont ni queue ni tête, le plus souvent, au moins on voit Elvis Presley, et donc forcément il devient cette force, et c'est un peu ce cheval de Troie dont je parlais tout à l'heure pour toutes ces musiques, les Chuck Berry, les Little Richard et tout cela qui s'engouffrent à sa suite. Cela étant, ils auraient sans doute pas eu besoin d'Elvis Presley, mais Elvis a favorisé les choses quand même, il a brisé bien des barrières.
Et tandis qu'Elvis brille dans le feu des projecteurs, les premiers interprètes noirs de ses succès restent dans l'ombre. Je pense notamment à Big Mama Thornton, qui n'avait touché que $500 pour sa version de Hound Dog, tandis qu'Elvis Presley menait la grande vie. Mais comme nous sommes respectueux dans cette émission des œuvres originales, écoutons l'enregistrement de 1952 du classique Hound Dog par Big Mama Thornton.
You ain't nothing but a hound. You was hot, man, but I can see through that. Yeah, she told me you was hot.
Dog par Big Mama Thornton en 1952, repris 4 ans plus tard par Elvis Presley. Florent Mazzolini, il est quasi impossible de citer tous ceux qui ont contribué à l'histoire du rock. Je renvoie donc nos auditeurs à la lecture de votre Odyssée du rock paru chez Hors Collection Éditions, qui propose un panorama complet de 60 ans de rock de 1954 à 2014. Sans parti pris ni complaisance d'ailleurs, il s'agit d'une évocation des plus grands acteurs du rock que l'on peut consulter à tout moment, ce que nous avons fait d'ailleurs pour préparer cette émission. En cette année 2015, Elvis Presley aurait eu 80 ans. Peut-on imaginer ce qu'il serait devenu à la fin de sa vie? Il avait délaissé le rock des origines pour une tonalité de crooner plus consensuelle. Serait-il aujourd'hui un chanteur un peu désuet, vivant sur sa gloire passée?
Oh, soit il serait revenu au folk, en fait, à la manière de ce qu'a pu faire Johnny Cash, qui était son ami dans le Memphis des années 50, par le biais des studios Sun. Soit, je pense que j'aurais bien vu faire du gospel, car vraiment, sa grande passion était la musique noire, la musique d'église. Étymologiquement, en fait, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que le terme rock'n'roll est employé dès le milieu du 19e siècle, en fait, par des voyageurs qui s'étonnent de voir ces fidèles des églises baptistes du sud des États-Unis littéralement être renversés et chavirés, donc ce mouvement de roulis du rock'n'roll rôle à cette époque-là. C'est dans ces églises qu'il y a cette transe, ce mouvement, cette gestuelle, ce mouvement corporel qui va poser les bases du rock'n'roll quelques décennies plus tard. Donc il me semble qu'Elvis aurait sans doute fait, on l'imagine bien en train de faire du gospel. Et d'ailleurs, parmi ses derniers albums, un album comme Elvis in Memphis en 1968 laisse la part belle au gospel, aux interprétations. Les morceaux comme In the Ghetto ou Only the Strong Survive ou des choses comme ça sont vraiment intéressants. Et non, j'aurais bien vu faire avoir une grande période de vide, de calme plat, et puis faire son comeback vers les 70 ans, 75 ans, avec deux ou trois albums. Un album de folk acoustique terrible, avec Scotty Moore, donc le guitariste des premières sessions Sun. Et puis après, ouais, un album de gospel avec des gens comme Mavis Staples ou des artistes qu'il avait pu côtoyer à Memphis à cette époque.
Il avait même joué à Paris avec le Golden Gate Quartet.
Ouais, tout à fait, en 58 ou 59. Il avait quand même une sacrée voix. Ça, faut pas l'oublier, même si on dit qu'il a pillé, qu'il a fait des mauvaises choses. Et puis, on garde aussi, c'est comme pour James Brown que pour son ami James Brown, on garde une mauvaise idée d'Elvis Presley, quelqu'un de bouffi, désabusé, de vivant un peu dans son Graceland, loin des contingents du monde. Et pourtant, je pense qu'il avait une profonde humanité dans cela. Et c'est quelqu'un, voilà, qui cherchait à faire partager sa passion pour les musiciens noirs. Et il a toujours, moi, de ce que j'ai pu entendre, j'avais fait un livre sur Memphis en 2006 qui s'appelait Memphis aux racines du rock et de la soul. Et je parlais amplement des virées d'Elvis. Comment une fois il avait loué en entier pendant une semaine le studio Stax, comment il était déguisé en karatéka, il patrouillait dans Memphis avec ses amis noirs. Enfin, il y avait une empathie très forte pour cette culture et cette culture du Sud dont il était originaire, et dont il est devenu sans doute le représentant le plus flamboyant. Mais on a voulu toujours le faire passer pour un illettré, un blanc-bec, un white trash, un prolo, un pilleur, un voleur. Non, mais il avait quand même une classe, il était là au bon endroit, au bon moment, et puis il a réussi à entraîner nombre d'auditeurs vers ces grandes musiques noires.
C'est la raison pour laquelle nous allons clore cette émission avec une image tonique du King. Voici Jailhouse Rock, 1957.
Everybody let's rock. Everybody.
rock, Elvis Presley au sommet de son art le 30 avril 1957 à Hollywood. Merci Florent Mazzolini de votre science du rock et des musiques noires en général.
Merci à vous.
Vous travaillez sur un nouveau livre pour bientôt ?
Oui, alors je commence un ouvrage autour de Franco et de l'Oakley Jazz. Je prépare la première biographie en français autour de Franco, mais une biographie que je veux qu'elle soit comme un roman en quelque sorte. Voilà, c'est assez présomptueux de dire cela, mais pour moi Franco est sans doute le plus grand musicien du XXe siècle, nonobstant James Brown, Duke Ellington, Miles Davis et d'autres. Et donc je voudrais lui rendre hommage décemment. Pour moi c'est vraiment un boléro de Franco autant de valeur qu'un tableau de Picasso. C'est mon credo en ce moment.
Enfin, qu'un boléro de Ravel, dans ce cas-là.
Exactement, mais depuis pas mal d'années maintenant. Donc voilà, ça c'est l'actualité du livre. Ça va sortir chez Papa Guédé, un très bel éditeur qui a sorti Les Voix du Mississippi.
Absolument.
Il y a quelques temps, et ça sortira au mois de juin.
Très bien.
Et puis je prépare là une exposition qui commence à Cotonou, à la Fondation Zinsou, qui ouvrira ses portes le 30 janvier 2015. Une exposition qui s'appelle African Records, dans laquelle je présente l'histoire de ces vinyles africains des années 50 aux années 80, et voir comment ils ont écrit l'histoire. Beaucoup de pochettes de vinyles, de photos, et c'est la première exposition sur les musiques africaines, sur le continent africain, donc à Cotonou, la Fondation Zinsou, du 30 janvier au mois de juin 2015.
Donc vous avez une année 2015 finalement bien chargée.
Oh, d'autres bricoles aussi, oui.
Voilà. On viendrait nous en parler ici même.
Avec plaisir.
Merci, bonne année à vous.
Merci, bonne année à vous également et aux auditeurs.
Et la semaine prochaine, c'est dans l'Odyssée du blues que nous allons nous plonger grâce au pianiste et conteur historien Mighty Mo Rogers, qui a choisi de nous narrer l'épopée du blues en 12 albums. Le sixième volet est disponible depuis peu chez Dixie Frog Harmonia Mundi. Il s'appelle Mud and Blood et c'est un disque que nous recommandons chaudement. Permettez-moi, puisque nous débutons une nouvelle année, de vous souhaiter à tous le bonheur, la joie et la santé pour 2015 et des milliers de moments musicaux enthousiasmants. Nathalie Laporte, réalisatrice de cette émission, vous embrasse. Et moi, je vous donne rendez-vous dans 8 jours. Passez une bonne semaine. Dans 30 secondes, le journal.